Salut à tous. On est toujours dans l'atelier de Fabien Toulmé, juste à côté de Bordeaux et juste à côté de sa maison. On a encore pas mal de choses à se dire. Il est surtout temps de prendre la route.
Dans l'atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis.
Fabien, on va maintenant parler donc de l'Odyssée d'Hakim. C'est ton travail le plus volumineux, une histoire en trois tomes en fait. On va d'abord rappeler en deux mots ce que ça raconte. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui cherche à fuir la Syrie et à rejoindre l'Europe et qui ne peut pas le faire légalement. Donc il va devoir utiliser les filières de migrants clandestines avec tous les dangers que ça comporte. D'abord, d'où est venue pour toi l'envie de raconter cette histoire et ensuite, comment s'est faite la rencontre avec Hakim lui-même ?
Alors, l'envie de raconter l'histoire, déjà, à la base, il y avait l'envie de travailler sur du témoignage. J'aime bien poser des questions.
Là, c'est moi aujourd'hui.
Ouais, là, c'est toi. Attends, je vais te poser des questions après. J'aime bien poser des questions, la vie des gens m'intéresse et j'avais envie de partir sur un livre témoignage. J'avais lu Le Photographe, j'avais lu La Guerre d'Alan et c'était des projets qui me parlaient beaucoup. En fait, j'avais envie de me lancer un peu dans une histoire comme ça, où je passerais un temps avec quelqu'un, on prendrait le temps de se connaître, il me raconterait son histoire et j'en ferais une BD. Donc il y avait vraiment cette idée-là qui était la première graine. La deuxième graine, ça a été en 2015, on est au fort de la crise syrienne avec le début des manifestations et de la répression par le régime, et donc beaucoup de Syriens quittent leur pays. Et non seulement des Syriens, mais beaucoup d'autres gens en fait du Moyen-Orient et d'Afrique plus globalement, et de gens qui décèdent en Méditerranée. Et il y a cette espèce de constance en fait dans les informations sur le décès de ces gens en Méditerranée, leur destin, la façon dont ils sont peu ou pas bien accueillis. Et moi-même en fait, j'en arrive à prendre l'habitude en fait de la récurrence de cette information, et il y a une espèce de déconnexion qui se fait avec la réalité de
déshumanisation. Ouais. C'est-à-dire c'est des chiffres, des statistiques.
Voilà, en fait j'entendais tant de personnes sont mortes en Méditerranée et je me dis waouh, c'est grave, c'est ça craint, mais il y avait une déconnexion entre ce que comprenait mon cerveau et l'effet que ça avait profondément sur moi. Et en 2015, il y a un accident d'avion avec un pilote allemand de la Germanwings qui choisit de se suicider et de tuer plutôt tous les gens qui sont avec lui dans l'avion en se jetant contre une montagne. Donc j'ai peur de l'avion, un peu moins maintenant, mais j'avais extrêmement peur de l'avion. Et quand je vois cette info, en fait, ça me terrifie. Parce que je commence à m'imaginer à l'intérieur de l'avion. Et pareil, ça fait les gros titres pendant plusieurs jours d'affilée. Et je me dis, c'est quand même fou, enfin, si on ramène ça à des chiffres, que cet accident d'avion m'impacte de façon beaucoup plus importante et impacte aussi la presse et le grand public de façon beaucoup plus forte que tous ces décès qui se produisent en Méditerranée. Et comment ça se fait? Et je me dis qu'effectivement il y a un problème de projection. En fait, j'arrive à me projeter dans l'avion parce que j'aurais pu voyager là, j'aurais plus de mal à me retrouver sur un canot en quittant mon pays. Donc je me dis, je vais essayer de vérifier si en me rapprochant de quelqu'un qui me raconte cette histoire, si j'arrive à ressentir, en fait, à supprimer cette distance que je peux ressentir. En plus, on est à un moment où, du fait de cette arrivée de migrants, il y a quand même un discours qui commence, peut-être ça fait un moment qu'il apparaît, mais en tout cas, à ce moment-là, il me paraît beaucoup plus puissant, plus évident, on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais comment on va faire avec tous ces gens, et il y a ce discours de fond là qui me saoule en fait, que je trouve injuste et déconnecté de la réalité, parce que je commence à lire aussi des livres sur les migrations et je vois qu'il y a en fait tout le monde s'accorde à dire que c'est non seulement impossible d'éviter les migrations, ça a toujours existé, ça fait partie de l'histoire de tous les pays et en plus c'est souhaitable pour le destin de tout pays, c'est quand même souhaitable qu'il y ait cette arrivée de gens pour tout un paquet de raisons. Et donc c'est un peu la dernière graine qui finit de se planter et qui me fait dire j'ai envie de raconter ça, et peut-être que si des gens qui commencent à ressentir cette envie de rejeter ces gens-là, peut-être si en lisant ça, s'ils arrivent à se rapprocher de ces destins-là et de voir ce que ça signifie, et surtout de se rendre compte qu'ils auraient pu être à cette place-là, je me dis, il faut raconter ça et voir ce que... Enfin, supprimer cette distance qu'on peut avoir avec ces destins-là.
Alors encore faut-il, pardon du terme, mais avoir le casting et trouver le bon témoin. Comment tu le trouves ?
Eh bien justement, je ne veux absolument pas faire de casting, c'est-à-dire que je ne veux pas me lancer dans une quête de ton histoire, non. Il y a 10 000 façons d'émigrer. Je veux simplement trouver quelqu'un déjà qui accepte et surtout qui accepte de passer un an et demi avec moi parce que ça va prendre du temps. D'ailleurs, je ne suis pas forcément parti pour interviewer quelqu'un qui viendrait de Syrie. Ça peut être simplement quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, mais dans l'idée de fuir une situation dans laquelle il est en danger ou dans laquelle il ne se sent pas bien pour venir en France. Et je commence à appeler des centres des CADA, des centres d'accueil, en laissant mon numéro et j'ai absolument aucun retour. On me fait comprendre que les gens n'ont pas tellement envie de me parler et surtout d'exposer publiquement leur histoire. Donc c'est un peu dur. Et puis j'en parle par hasard avec une amie journaliste à Aix-en-Provence qui est en lien avec des associations d'aide aux réfugiés. Et au moment où je lui dis mon projet, elle me dit « Bah écoute, hier, j'ai eu entre les mains le dossier d'une personne qui serait donc Hakim. Et en voyant son histoire, je me suis dit qu'il fallait absolument en faire quelque chose. Donc je lui parle de ton projet, je vous fais vous rencontrer et voyez si ça peut le faire. »
Et lui, il a tout de suite adhéré quand
Alors,
tu l'as raconté
En fait, je suis venu chez lui avec « Ce n'est pas toi que j'attendais », je crois, parce que je voulais qu'il voit... Enfin, il connaissait pas la bande dessinée, donc je voulais qu'il voit un petit peu le produit fini. Je voulais lui expliquer un peu tous les tenants et les aboutissants en lui disant « Bon, ben voilà, on va passer du temps ensemble ». Alors, j'avais absolument pas, encore une fois, l'inconscience. J'étais inconscient de tout ce que ça allait demander en termes de durée d'interview, mais je lui ai dit on se verra quelques fois. L'autre chose importante à savoir, c'est que ta vie sera exposée publiquement. Donc d'abord, est-ce que tu acceptes? Et si tu acceptes, sous quelles conditions? Donc il a dit qu'il voulait bien, mais en restant anonyme, parce qu'il pouvait y avoir des répercussions d'ordre sécuritaire sur sa famille restée en Syrie.
Il n'a jamais son nom de famille. Il s'appelle réellement Hakim, d'ailleurs?
Non, il ne s'appelle pas Hakim, et j'ai changé des petits détails... comme le quartier où il habite, les professions de telle ou telle personne, pour un peu brouiller les pistes. Et voilà, je lui ai dit tout ce à quoi ça pouvait l'exposer ou l'engager, et lui, il a été OK. Il a été OK, il n'a pas, pas eu un emballement incroyable en me disant « Ouais, c'est super, j'ai envie de faire ça », mais il a dit « OK, je veux bien le faire pour que les gens voient qui on est, et je veux surtout le faire pour que mes enfants... qui n'ont pas connu sa situation en Syrie et pour deux d'entre eux son cheminement jusqu'en France, pour qu'eux aient entre les mains l'histoire de leurs parents. Et il y avait un côté écrivain public qui me dans le travail que j'allais avoir à faire qui me plaisait beaucoup. Recueillir une parole, essayer de faire en sorte d'en prendre le plus soin possible pour qu'elle soit le plus fidèle à ce qui m'était livré et qu'il en soit content et fier, en fait.
Comment tu as procédé ? Donc, beaucoup d'interviews, tu l'as dit, tu l'as vu pendant longtemps, un an et demi, ça fait vraiment long. Hein. Je ne sais pas quelle fréquence tu le voyais ?
Ça pouvait être toutes les semaines dans les moments où il était dispo, et des fois, ça pouvait être à intervalles de un ou deux mois, parce qu'il y avait des moments où il était quand même assez occupé, donc je me calais à son... En fait, il fallait que je sois hyper dispo. Parce que des fois, il me disait « Bon, bah là, je peux. » Donc, je laissais tout en plan et j'allais le voir. On passait 2 heures ensemble et puis voilà.
Tu faisais comment ? Tu l'enregistrais, par exemple, pour ensuite retranscrire ? Tu prenais des notes ? Tu gardais juste ce qu'il te racontait dans la tête ?
Alors déjà, il y a un point à savoir, c'est qu'il ne parlait pas français. Donc, il fallait que je sois avec un interprète. C'était compliqué. C'était compliqué, l'interprète, parce que je me suis rendu compte... Alors, j'en ai eu plusieurs. Hein. Je me suis rendu compte qu'en fonction de l'interprète, la qualité du récit n'est pas la même. Donc j'ai eu 3-4 interprètes, et c'est le dernier qui m'a suivi le plus longtemps, qui s'appelle Michel, que je remercie, et qui a vraiment fait un boulot super, parce qu'il est arrivé... Alors c'est un Français qui a vécu en Syrie, donc en plus de me traduire ce que disait Hakim, il m'aidait à recontextualiser des situations purement syriennes qu'un Français, même à travers les mots d'Hakim, ne pouvait pas comprendre. Donc il y avait cette première contrainte technique qui n'était pas évidente, parce que du coup ça doublait le temps de toutes mes interviews. C'est-à-dire que une interview d'une heure avec un Français, ben là, ça me prenait 2 heures. Et comment je faisais ? Ben, j'avais un peu la hantise de perdre des infos. Donc, j'avais un enregistreur, j'avais un carnet et je posais mes questions. Donc ma façon de faire a beaucoup évolué. Hein. Au début, c'était comme, encore une fois, comme pour ce n'est pas toi que j'attendais, c'était très scolaire. Je suis venu avec mes petites questions, numéro 1, et voilà, numéro 2. Et en fait, au bout de la question numéro 5, j'ai fait, mais non, mais c'est pas possible, parce que quand tu imagine en avance que le cheminement de quelqu'un et tu poses des questions que dans cette direction, en fait tu fermes trop. Donc en fait au bout de 5 questions je fais non, maintenant on va parler normalement. Il me disait un truc, je réagissais à ce qu'il me disait, j'essayais d'aller au plus loin dans les détails parce que j'étais très inquiet de savoir si j'allais pas transformer les choses, mentir d'une certaine façon. Donc je lui posais des questions hyper précises sur dans cette situation, qu'est-ce que t'as dit, quelle était ta sensation quand t'étais dans cette cellule, comment était la cellule, quelle taille elle faisait, est-ce qu'il y avait une fenêtre en haut, sur les côtés. Des fois je faisais des petits croquis en rendez-vous pour lui montrer. Par exemple, il y a le moment où il doit gonfler le canot de sauvetage pour traverser la Méditerranée, donc il me dit on utilisait un gonfleur. Je me suis dit, un gonfleur, mais c'est les trucs de camping, là, on appuie avec le pied. Il me dit, oui, c'est ça. Donc, comme j'avais un doute, j'ai dessiné un gonfleur vite fait. J'ai dit, mais c'est ça, le gonfleur? Il me dit, oui. Donc, j'essayais vraiment d'aller très loin dans le détail. Et en fait, du coup, j'enregistrais, je prenais des notes, mais je me suis rendu compte que le plus efficace, c'était simplement d'être attentif à ce qu'il me disait, que dès que l'interview se terminait, je rentrais au bureau et je retranscrivais direct, avec tout en tête. Parce que l'enregistrement, c'était quand même long. Il y avait toute la phase de traduction. Donc, si je devais retranscrire sur la base du fichier son, en fait, j'y passais un temps.
Et tu les as réécoutés, finalement, ces enregistrements ou,
Je les ai réécoutés parce que il y a eu des expos qui ont été faites avec... Là, il y a une expo qui s'est faite à Strasbourg, à la bibliothèque universitaire, où je leur avais envoyé des extraits d'entretiens, donc ils les diffusaient dans l'expo.
Bah, je veux dire, tu t'en es pas servi pendant que tu faisais. Finalement, la mémoire que tu avais des entretiens suffisait pour ensuite rentrer, retranscrire.
Je m'en suis servi sur les 2-3 premiers rendez-vous, et en fait, je mettais une journée à retranscrire, et c'était trop long. Parce qu'il y avait toute cette phase de parler arabe là où il fallait que j'avance et puis j'avançais trop loin, il fallait que je revienne. Donc au bout du troisième rendez-vous, j'ai fait mais non, mais en fait j'ai tout en tête. C'est plus une sécurité si jamais je perds les infos, mais en fait faut que dès que j'arrive au bureau, que je réécrive l'interview et voilà.
Dans l'atelier BD de Fabien Toulmé.
Est-ce que ça s'est dessiné aussi, cette histoire, au fur et à mesure des entretiens avec Hakim? C'est-à-dire quand tu as commencé concrètement à dessiner ou à faire les premières pages, t'étais pas du tout encore au bout de l'histoire d'Hakim et tu continues à le voir, ou tu as d'abord tout écrit et ensuite tout dessiné?
Alors en fait, quand j'ai proposé le projet à Delcourt, j'avais eu le dossier de demande d'asile d'Hakim, donc j'avais les grandes lignes. Donc je savais à peu près où j'allais, mais je savais pas vraiment tout le développer. Donc c'est pour ça que quand j'ai proposé le projet à la fois à Hakim, je lui ai dit qu'on se verrait 5-6 fois. Et quand j'ai proposé le projet à Delcourt, je leur ai dit que ça serait un one-shot de 200 pages.
Au final, 700.
Et en fait, justement, c'est ça, c'est en faisant les entretiens, déjà je me suis rendu compte que c'était très très long. D'être avec quelqu'un et d'aller loin dans la quête d'informations, ça prend du temps. Donc c'est là que je me suis dit que 5 rendez-vous, ça le ferait jamais. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire, là j'ai dit à Yannick le jeune, j'ai dit ben là franchement le one shot c'est pas possible, ou alors faut être très elliptique, et pour moi j'allais perdre ce que je voulais, c'est-à-dire essayer de faire vivre au lecteur toutes les étapes de cette migration. Je voulais vraiment qu'on ressente la difficulté, l'incertitude de ce qu'est la migration, et pour moi si j'étais trop elliptique j'allais perdre en souffle.
Il y a parfois même des moments assez longs, des moments de pause.
Ouais, bah en fait aussi, pareil, un écueil que je voulais éviter, c'était vraiment le drame pour le drame. Donc je voulais raconter la migration dans ce qu'elle avait de dur, mais aussi dans ce qu'elle pouvait avoir de beau, dans ce qu'elle pouvait avoir de drôle, dans ce qu'elle pouvait avoir d'incongru. Donc il y avait des situations que j'avais pas du tout prévues et qui me paraissaient hyper fortes. Je pense là en te parlant, je pense à la situation où Hakim en fait donc sur la route rencontre ce qui va devenir sa femme et il décide de se marier en Turquie. Et il se marie en Turquie, évidemment, il connaît personne, donc il invite les Syriens qui sont dans son bâtiment. Et il a pas d'endroit pour fêter le mariage, donc ils vont fêter ça dans une pizzeria. Et il y a un truc un peu triste, et c'est un mélange de tristesse et de joie, et un truc un peu lost in translation. Et je me suis dit, ça, j'ai envie de le raconter parce que ça dit beaucoup. Donc il y avait tous ces moments-là qui étaient pas forcément prévus, qui sont pas forcément hyper intenses en rebondissement, mais que je voulais vraiment mettre.
C'est comme ça que qu'on en empathie finalement avec Hakim, qu'on est presque dans sa peau quand on suit son histoire.
Bah pour moi, plus tu développes des situations de vie, alors faut quand même les choisir. Hein. Il s'agit de d'organiser ça et de sélectionner. Mais
ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup de montage? Est-ce que de tout ce que tu as raconté Hakim, il y a beaucoup de choses qui sont pas dans le livre?
Bah en fait, tout ce boulot de montage, il se faisait à l'interview. C'est-à-dire que avec le temps, en fait, j'arrivais de mieux en mieux à guider l'interview et à me rendre compte sur le moment de ce que j'allais mettre ou pas dans la BD. Et il y avait les moments, justement, que je trouvais assez symboliques et caractéristiques de ce qu'était la migration, où il l'évoquait à peine. Par exemple, si je reviens à cet épisode du mariage et de la pizzeria, il me dit « Bon, bah, on s'est marié dans une pizzeria. » Et je me suis dit « Ah ouais, c'est surprenant et intéressant quand même. » Donc là, j'allais chercher un peu plus. Donc je disais « Bon, bah, comment s'est fait l'organisation du mariage ?» Donc vraiment, cette partie « montage », entre guillemets, elle était vraiment au moment de l'interview. Et pour le coup, au moment de l'écriture, il y avait beaucoup moins de coupes à faire, puisque tout était déjà plus ou moins écrit au moment de l'interview. Vraiment au moment de l'écriture, ce qui était un peu la difficulté, c'était de trouver le bon éloignement entre la voix off d'Hakim et la situation vécue par Hakim. C'est-à-dire, je voulais pas faire un bouquin qui soit 90% du temps en voix off. Je voulais qu'on vive la situation. Je voulais pas qu'il y ait une trop grande déconnexion entre ce que me racontait Hakim et les situations.
Donc il faut réinventer aussi des dialogues, les dialogues des autres personnages, mais qui te sont racontés par Hakim. Donc ça, c'est la part fictionnelle de ce travail. Est-ce que, par exemple, l'épouse d'Hakim dont tu parlais à un instant, elle, tu l'as interviewée, est-ce que tu as essayé de discuter avec elle ou vraiment tu restais focalisé sur Hakim ?
La première chose, c'est très pratico-pratique. C'est qu'à l'époque où j'ai fait l'interview, Hakim vivait dans un studio avec un petit F2 avec donc deux enfants en bas âge, pour l'un un bébé, pour l'autre un jeune garçon de 3-4 ans, et donc ils étaient assez agités, et en fait la femme d'Hakim, pour qu'on puisse faire l'interview, prenait gentiment les enfants avec elle et les emmenait dans la chambre. Donc il y avait cette en fait, le fait qu'elle soit assez peu présente faisait que je pouvais pas l'interviewer. Après, des fois, elle passait, elle allait faire un thé ou elle venait un peu s'asseoir avec nous. Elle réagissait à des choses que disait Hakim. Mais là, maintenant, je passe à la partie plus qui est vraiment sur le projet. Le projet, c'était vraiment Hakim. Et un peu comme je l'ai fait dans « Ce n'est pas toi que j'attendais », c'était « On est dans les pas d'Hakim ». Donc, à des moments aussi, elle réagissait. Je pense à un moment où Hakim évoque le fait qu'il était en relation avec des filles sur Facebook, et elle réagit de façon faussement jalouse. Donc ça, comme c'était des situations que je trouvais sympas, je les ai mises dans la BD, mais c'est vrai qu'elle est assez peu présente finalement.
Est-ce que tu arrivais avec tes pages? Tu lui montrais tes pages à Hakim, c'est-à-dire qu'il se voit en personnage de bande dessinée?
Alors, au début, justement, comme j'avais vraiment ce souci d'être au plus près de ce qu'il avait vécu, et j'avais un peu la hantise de transformer ce qu'il m'avait dit, j'étais venu consciencieusement avec mes premières pages. Et il a regardé ça d'un œil assez distant, en fait. Il était, je sais pas, il m'a pas dit pourquoi il était si peu dans le suivi de ce que je faisais, mais il a regardé ça plus amusé, en fait. Il a vu la tête que je lui avais faite, il a vu la tête que j'avais faite à sa femme, il a fait des commentaires sur la façon dont elle était habillée. Je l'ai mis dans la BD d'ailleurs, parce que je l'avais faite avec une grande robe, et il m'a dit qu'on aurait dit une bonne sœur, donc après je l'avais habillée différemment. Il a réagi quand j'avais dessiné le portrait d'Hafez el-Assad. Il n'a pas été très dans le suivi, et même dans la demande de voir ce que je faisais. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir une espèce de confiance qui s'était installée entre nous deux. Par contre, je lui ai envoyé les tomes au fur et à mesure de leur parution, et j'étais assez persuadé qu'il les lisait. Et en fait, bah, surtout qu'à ce moment-là, il ne parlait pas français, donc on ne communiquait pas trop, en fait. On communiquait à chaque fois par quelqu'un, si quelqu'un était présent avec nous, mais entre nous, c'était compliqué. Et à la toute fin du troisième tome, là, il commençait à avoir quelques rudiments de français, donc là, je n'étais plus à Aix. Je l'ai appelé. Et en lui disant, bah, pour avoir une espèce de verdict, genre, bon, ça t'a plu? Et il m'a dit, oui, ça m'a plu. Et quand j'ai essayé de gratter un peu, il m'a expliqué qu'il n'avait pas vraiment lu. En fait, il l'a feuilleté. J'ai pas réussi à savoir s'il l'avait que feuilleté parce qu'il n'avait pas envie de se replonger dans cette histoire, un peu comme moi, avec Ce n'est pas toi que j'attendais. Ou si parce que la difficulté du français ou de la lecture de BD faisait que c'était compliqué. Mais en tout cas, il l'a pas vraiment lu. En tout cas, je sais qu'il en est très content. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de retours de ses connaissances, qui lui avaient dit que c'était que c'était très fidèle et que c'était une bonne BD. Donc ça, il en était content. Et puis il me dit qu'aujourd'hui, ça lui arrive, malgré l'anonymat, d'être reconnu en tant que Hakim à travers différents détails que j'ai pu donner. Et il en est assez fier.
Est-ce que le moment de la traversée, qui est évidemment, tu disais, hein, ce qui fait qu'on parle d'immigrants, c'est surtout les traversées et les drames qu'il y a avec ces traversées. Hakim, pour le coup, a vraiment failli rester dans cette traversée. C'est un peu le moment le plus tendu. Est-ce que tu arrives à prendre de la distance déjà avec lui quand tu lui fais des interviews, c'est-à-dire avoir presque une distance de journaliste? Il va devoir raconter un truc extrêmement douloureux de sa vie et il faut lui faire sortir le truc. Est-ce que tu arrives à avoir cette distance ou tu finis par être très en empathie aussi avec ce qu'il te raconte?
C'est un mélange un peu des deux. En fait, d'une façon générale, le côté technique de l'interview fait que je suis obligé d'être concentré. Donc je posais mes questions pendant que l'interprète traduisait ma question, je réfléchissais un peu au coup d'après. Quand il me retraduisait, j'adaptais. Donc tu vois, c'était quand même assez... Ça demandait pas mal de concentration. Donc ça faisait que j'avais du mal à me connecter totalement au récit. Mais cette traversée de la Méditerranée, ouais, c'est un des moments où j'ai un peu perdu le contrôle de la technique, justement. Surtout quand il me parle de la mort possible de son fils, là je t'avoue que j'étais un peu remué. C'était une des rares fois au milieu de tous ces moments terribles où lui-même a été ému. Donc là je t'avoue qu'on a eu un peu les yeux qui brillaient tous les deux. Mais sinon globalement ouais, j'étais quand même très très concentré. Je sortais de ces deux heures d'interview rincé. Franchement j'étais en ultra concentration. C'est dur l'interview.
C'est pas facile. Trois tomes donc de l'Odyssée d'Hakim, ça t'a pris combien de temps au total?
Bah j'ai fait un tome par an. Ouais.
Un livre qui a été incroyablement bien reçu. Tu as eu des prix avec ce livre et c'est surtout très 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 bien vendu. Hein. C'est un vrai succès de librairie. Est-ce que tu t'attendais à ce que cette histoire de migrants touche finalement autant?
Non, on s'attend jamais. Mais dans les deux sens d'ailleurs, on s'attend jamais ni à ce que ça soit un échec, ni à ce que ça soit un succès.
C'est un gros succès, hein, vraiment.
Ouais, bah on le fait déjà pour soi, parce que ça nous plaît. En fait, se lancer dans une BD, c'est tellement long qu'il faut pas se lancer pour des mauvaises raisons. Il faut pas se lancer en se disant je vais faire ça pour un succès. Donc je l'ai fait parce que vraiment, j'étais... J'avais vraiment envie de travailler sur du témoignage, j'avais envie de me plonger dans cette vie-là et de transmettre ça. Il y avait vraiment l'idée de la transmission qui m'animait beaucoup. Et après, oui, tu perçois quand même qu'il y a des émotions très fortes et que l'art, enfin la lecture, c'est essayer de percevoir des émotions. Donc s'il y a des émotions, il y a des chances que ça soit bien reçu, mais tu peux faire une très bonne BD pleine d'émotions et puis que ça soit pas proprement parler un succès. Donc non, tu sais jamais vraiment en fait.
La question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que tu le vois encore Hakim? Alors c'était à l'époque, tu le rencontrais à l'époque où tu habitais à Aix-en-Provence. Maintenant, on l'a dit, tu es à Bordeaux. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que avec tous ces moments finalement que vous avez partagés, Hakim est devenu simplement ton ami?
Ami, le mot est fort, puisqu'on a passé un an et demi à se parler avec une personne entre nous qui faisait la traduction. Donc pour être ami, il faut quand même aller passer un peu plus de temps et avoir la possibilité d'échanger de façon un peu plus intime. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est développé une relation on se connaît. En fait, il y a une relation de confiance tout simplement qui s'est établie déjà pour que lui accepte de me raconter sa vie, pour que lui accepte de passer autant de temps avec moi, qu'il accepte que je publie ça et que je le fasse lire au plus grand nombre. Ça veut dire qu'il avait confiance. Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il se livrait de plus en plus. Donc il y a cette relation de confiance. Après, si on se voit, non, puisque maintenant, étant à Bordeaux et ne retournant pas à Aix, et lui n'ayant pas trop la possibilité de se déplacer, on se voit pas. Par contre, on sait de temps en temps au téléphone. Donc je suis ses progrès en français. Moi, je me suis mis un peu à l'arabe. Il est encore meilleur que moi. Il est meilleur que moi en français, que moi en arabe.
Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
Inoubliable, c'est ton dernier bouquin, c'est aux éditions Dupuis, et on reste dans cette veine du témoignage. Alors c'est très différent d'Hakim, ce sont des témoignages que tu as sollicités et tu leur as demandé de raconter un moment inoubliable de leur vie. Ça peut être très dramatique, ça peut être beaucoup plus léger, ça peut être des histoires au long cours, ça peut être un événement, ça peut être vraiment tout, c'est quelque chose de très large. Comment t'es venue cette idée d'abord, toujours cette volonté de se dire que derrière chaque personne il y a une histoire ou quelque chose à raconter?
Une fois que j'ai terminé Hakim, j'ai eu envie de faire quelque chose de très différent. Je voulais partir sur la fiction, je voulais partir sur un truc léger. Je sortais de trois tomes assez fort, assez tendu. Voilà, donc j'ai fait une fiction qui s'appelait Suzette. Et en même temps, j'avais adoré ce travail de passeur de témoignages, en fait. De recevoir une parole, de recevoir une histoire, d'essayer de la mettre en scène tout en ayant cette contrainte d'être au plus près de ce qui s'était passé. Et je m'étais dit que je voulais retravailler là-dessus. Je voulais pas forcément refaire un travail au long cours avec une personne, parce que là, il y a quand même, d'un point de vue logistique, c'est complexe. Il faut que la personne soit disponible, qu'elle ait envie. Et par contre, ce que je me disais, c'est que j'aimerais bien faire des petites nouvelles. Recueillir des histoires de vie et je savais pas encore trop sous quelle forme ni quel serait le fil conducteur de tout ça. Toujours est-il que j'avais passé une annonce sur mes réseaux sociaux en disant voilà, si vous avez une histoire personnelle, quelque chose, un moment un peu marquant de votre vie, vous pouvez l'envoyer et puis je savais pas trop ce que j'en ferais en fait. Mais au fur et à mesure, j'ai reçu un certain nombre de mails, on a reçu à peu près 300.
Ce qui est beaucoup.
Ce qui est pas mal, ouais. Non, mais au début, les premiers jours, j'avoue que j'étais un peu submergé par les mails, mais je les ai tous lus. Alors, j'ai pas répondu à tous, parce que c'était un peu complexe. Donc, depuis, j'ai fait une réponse automatique pour dire que je l'avais bien reçu.
Mais votre histoire ne nous intéresse pas.
Si, parce que pour moi, j'ai vraiment dans l'idée que toutes les histoires sont. Je te dis, je suis intéressé par les gens, je suis intéressé par les histoires de vie, et je trouve que toutes, même les histoires qui ont l'air les plus anodines, sont intéressantes. Donc j'ai reçu tous ces mails là, j'ai gardé ça dans un coin parce que j'étais parti sur d'autres projets, et puis l'année dernière, ou il y a 2 ans, je te dis, je suis nul en chronologie, je crois que c'est il y a 2 ans, il y a Frédéric Nifle, le rédacteur en chef du journal de Spirou, qui m'appelle et qui me dit voilà, on aimerait bien que tu fasses une espèce de page un peu récurrente dans le magazine, dans le journal. Son idée, c'était de faire du portrait de société, quelque chose qui serait un peu. Il m'avait évoqué le documentaire Striptease comme étant un peu ce qu'il avait en tête. Tu sais, Striptease, c'est le documentaire belge là où on suit des histoires de vie. Voilà. Et il fallait pour le journal que ça tienne en une page. Et l'idée, c'était je vais à la rencontre de gens, je leur parle et je raconte ça en une page. J'ai commencé à le faire.
Qui en as fait 700 avec Hakim, une, c'est.
Ah, rigolade.
Compliqué.
Ah. Non, rigolade d'un point de vue rapidité du truc, mais c'est compliqué effectivement. En fait, donc je rencontrais des gens au hasard dans la rue ou je sais pas où, je leur parlais et j'essayais d'extraire de cet échange quelque chose qui était assez caractéristique de la personne ou de l'époque. Donc j'en avais fait 3-4, c'était assez inégal, il y en avait un bien pour 3 bof. Et j'ai dit à Frédéric Nifle, franchement, je sais pas trop où je vais là, je pense que c'est pas. En tout cas, je vais pas m'y retrouver et j'ai peur que ça soit pas terrible. Et à ce moment-là, m'est revenu en tête donc cet appel à témoins et ces 300 mails. J'ai dit, par contre, ce qui peut m'intéresser, c'est de développer sur un temps un peu plus long des histoires. Alors, pas sur un album complet, mais de faire des petites nouvelles d'une vingtaine, trentaine de pages et je raconte des histoires de vie. Et il m'a dit bah pourquoi pas, donc je lui en ai proposé une, ça lui a plu, 2, et puis voilà comment est né cet album.
Comment tu les as choisis, là aussi, si t'en as 300, il faut dire laquelle est forte, laquelle est à une portée, je sais pas, peut-être universelle aussi, parce que les témoignages ça sert aussi aux autres, hein. Là tu racontes par exemple une histoire d'embrigadement sectaire, tu racontes dans cet album l'histoire d'une personne qui a passé son enfance au Rwanda au moment de la guerre au Rwanda, tu racontes aussi une histoire d'amour au très long cours qui a mis des années et des années avant de se concrétiser. Enfin voilà, différentes histoires, il faut quoi, il y a un équilibre à trouver dans les histoires que tu racontes entre gravité, légèreté, universalité.
Ouais, en fait, c'est un peu les deux. Il y a première chose, c'est quand je lis les histoires, est-ce que fondamentalement elles m'inspirent, est-ce qu'elle pourra donner une bonne histoire en bande dessinée, est-ce qu'elle me plaît, est-ce qu'elle me parle. Donc il y a ça, et après il y a aussi comment ces histoires fonctionnent les unes avec les autres. Je veux pas, faut qu'il y ait une variété dans les thématiques, faut qu'il y ait une variété dans les émotions. Là, c'était un peu le truc qui me guidait au début de la constitution de ce recueil de témoignages, c'était la boîte de chocolat de Forrest Gump. C'était quand tu commences le livre et que tu lis les histoires, faut pas que tu saches sur quel type d'émotion tu vas tomber, il faut que ça soit varié. Faut pas que ça soit 6 histoires plombantes, faut pas que ça soit 6 histoires drôles ou 6 histoires légères, faut qu'il y ait dans la mesure du possible une alternance d'émotions. Donc ça, c'était dans la partie construction et choix des histoires les unes par rapport aux autres. Et là, pour, par exemple, pour ce premier tome, j'ai dessiné plus d'histoires que ce qu'il y a dans le tome 1. Parce qu'il y en a deux, en fait, que je trouvais qui fonctionnaient moins bien avec les autres. Donc je les ai gardées pour le tome 2. Il y en a d'autres aussi que j'ai commencé à écrire et à faire en storyboard. Et en fait, je me suis rendu compte que, à la fois en elle-même, elle répondait pas à ce que j'attendais peut-être sur les émotions que je recherchais, et que peut-être elle fonctionnait moins bien que les autres. Donc en fait, j'ai fait plus d'histoires que ce qu'il y a dans le tome 1.
C'est pas un peu dur, les gens qui t'ont confié leur histoire, parce qu'il faut le faire, hein, c'est des fois des choses très intimes, de dire, bon, bah, finalement, je vais pas la faire.
Ouais, j'imagine que doit y avoir de la déception. Après, dans la façon dont j'explique les choses, c'est que c'est, encore une fois, c'est pas l'histoire en tant que telle. C'est, y a des histoires qui sont plus ou moins adaptables en bande dessinée, et il y en a qui fonctionnent très bien à l'oral et qui, mise en scène, par exemple, je repense à une histoire qui était une histoire de recherche de famille de sang, je sais pas si on dit ça. En fait, c'était quelqu'un qui avait grandi en France et qui était allé à la recherche d'une famille qu'elle ne connaissait pas dans son pays d'origine. Et l'histoire était très très forte, simplement dans le déroulé de l'histoire, la façon dont ça s'était construit. Il y avait beaucoup d'échanges via mail ou messagerie Facebook, et dans la mise en scène, tout simplement, d'un point de vue BD, ça fonctionnait pas, ou en tout cas j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc c'est pas l'histoire en elle-même qui était pas suffisamment forte ou bien, ou c'est juste que moi j'ai pas réussi à la construire comme il fallait. Donc j'explique que ça peut pas y trouver sa place, mais c'est pas, ça remet pas en question la puissance de l'histoire, ou, et en tout cas je suis à chaque fois extrêmement reconnaissant aux personnes d'accepter de me livrer ça, parce que, enfin, je reçois des histoires extrêmement intimes. Ils vont chercher loin dans leur passé, dans peut-être les difficultés qu'ils ont vécues, et c'est pas anodin, quoi. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'ils m'ont fait confiance, qu'ils ont accepté qu'on se fasse une interview visio pendant une petite heure. Enfin, donc non, j'en suis très reconnaissant.
Alors, même question d'ailleurs que pour Hakim, tu leur montres les pages avant publication, tu peux dire, bah, il y a peut-être un truc que j'ai compris de Traviole, donc il vaut mieux que je leur montre.
Là, ça a été beaucoup plus systématique qu'avec Hakim, parce que déjà, il y avait la facilité de la langue qui faisait qu'ils pouvaient relire les mots que je mettais dans leur récit, et puis c'était des récits courts, et puis c'est des lecteurs de BD, donc et a fortiori de mes BD, donc je voulais surtout qu'ils se reconnaissent dedans, quoi, que je, encore une fois, je transforme pas leurs histoires. Donc je l'envoyais en plusieurs temps, je l'envoyais déjà en phase storyboard, et à ce stade-là, ils me faisaient des retours sur, bah, dans telle case, en fait, je pouvais pas faire ça pour tel motif. Ou alors, je veux pas que cette personne apparaisse sous son vrai prénom ou sous son vrai genre, pour pas être reconnu. Et puis la dernière étape, c'est une fois que tout est finalisé, je leur envoie pour qu'ils voient le produit fini et qu'éventuellement, ils me fassent leur dernier retour sur tel ou tel détail. Voilà.
C'est un concept quasi infini, hein, parce qu'il y a autant d'histoires que de gens quasiment. Donc, c'est quelque chose que tu veux faire très au long cours.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui est très varié. Donc c'est quelque chose que j'imagine faire pour plusieurs tomes. Après, ça dépendra du... est-ce que j'ai beaucoup d'histoires qui m'intéressent, qui soient suffisamment... qui fassent suffisamment écho à des choses qui me parlent pour que j'ai envie de les mettre en scène. Ça, c'est la première chose. Et je dirais qu'a priori, oui. Et après, l'autre chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des lecteurs. C'est-à-dire, c'est comme toutes les séries. Si ta série n'est pas suivie, bah, t'as beau vouloir la faire, elle s'arrête. Donc là, ça dépendra d'un peu tout ça.
Tu continues à vouloir en recueillir des histoires, ou t'en as assez pour t'occuper un moment ?
Non, toujours, parce que... Il y a des histoires aussi qui avec le temps, en fait, sur le moment, je me rends compte que je suis plus ou moins sensible à certaines histoires en fonction de mon état d'esprit. Et puis même, d'une façon générale, il vaut mieux avoir beaucoup de choix. Et puis, dans l'idée de prolonger cette série longtemps, j'ai jamais trop d'histoires. Donc, effectivement, si les gens veulent toujours m'envoyer des histoires, ils peuvent le faire.
Tu as envie de revenir à la fiction. Tu disais tout à l'heure que tu as fait une petite parenthèse de fiction avec Suzette, qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui va retrouver son amour de jeunesse. Tu as envie d'autres fictions. Tu dis aussi que, un peu comme les Wistrondheim d'ailleurs dans un précédent podcast, que ce que tu n'aimes pas, c'est t'ennuyer quand tu travailles.
Ouais.
Donc c'est pour ça que tu varies les genres: fiction, témoignage, reportage.
Oui, il y a vraiment de ça. En fait, il y a une phase de dessin. En fait, la façon dont je fais une bande dessinée, c'est je commence à l'écrire, puis après je la dessine. Et la phase du dessin est très longue. Et en fait, pendant la phase du dessin, je commence déjà à partir dans des idées, dans des projets, j'ai soif de fiction en fait. Je trouve que chaque style, chaque façon de raconter est très différente. En même temps, c'est le même médium, c'est de la bande dessinée. Mais en même temps, c'est très différent parce que ça fait appel à des fonctionnements un peu différents. La fiction, c'est une liberté totale. C'est très dur, je trouve ça dur la fiction, mais c'est une liberté totale. Et là, je crois que j'ai envie de faire, de dépendre, de pas avoir à montrer peut-être ce que je fais pour être validé par les gens qui ont témoigné, de pas avoir à faire des recherches journalistiques, là on parlait des reflets du monde et dans Lutte, pour aller vérifier tel point ou tel...
Et puis là en plus dans Lutte, tu vas sur le terrain.
Ouais, il y a aller sur le terrain, chercher un sujet, c'est compliqué. Et après, tu vois, là, il y a des bouquins qui sont des bouquins de sociologie, des choses comme ça. Ça implique de s'informer. La fiction, c'est beaucoup plus spontané, en fait. Tu réfléchis à une histoire, tu la développes, tu la dessines, et ça y est. Donc oui, là, je pense que ma prochaine BD, après le tome 2 dans Lutte, sera une fiction. Et de toute façon, j'ai commencé une série jeunesse qui s'appelle Marilou, avec Olivier Dutot.
Au dessin, ou là tu
au
n'es
dessin.
Que scénariste.
Que scénariste, et c'est de la fiction, et voilà, ça remplit aussi, il y a ce côté sympa d'avoir cette petite bulle de liberté.
Et la jeunesse, c'est encore autre chose, c'est encore une autre façon de faire de la bande dessinée.
Ouais, la jeunesse, c'est vraiment différent. En fait, moi, j'ai une tendance un peu fâcheuse à m'étaler et à faire des gros bouquins, y compris en fiction, parce que j'aime bien les temps qui durent, en fait. J'aime bien développer des échanges, j'aime bien développer des situations. Et pour la jeunesse, en fait, c'est plus compliqué de partir sur des formats libres. C'est quand même un peu plus calibré. Donc, j'ai trouvé que c'était très... cette contrainte du format était hyper intéressante parce qu'elle m'obligeait à être concis et efficace. Donc c'est une autre façon de travailler, et pour le coup c'est quelque chose qui restimule. Tu vois, à chaque fois que tu commences un nouveau truc ou tu as des nouvelles obligations, des nouvelles contraintes, moi ça me stimule à essayer de trouver une façon de résoudre ça. Et Marilou, ça répond un peu à ça.
Dans l'atelier BD de Fabien Toulmé.
On en arrive aux questions de fin. Inoubliable vient de sortir. Le prochain... Ce sera donc deuxième tome dans Lutte, c'est ça ?
Alors, ça ne s'appellera pas En Lutte, parce que la série s'appelle Les Reflets du Monde.
Donc, c'était le premier qui s'appelait En Lutte.
Le premier s'appelait En Lutte, et en fait, le principe de cette série, c'est à chaque tome de choisir une thématique, quelque chose d'un peu caractéristique de notre époque. Et là, pour le tome 2, j'ai choisi la thématique du travail. Et donc, je vais parler de la thématique du travail au travers de trois reportages dans trois pays, toujours sur un peu le même fonctionnement qu'En Lutte, mais... pour le coup, sous une autre thématique.
Et Inoubliable, que tu as commencé donc déjà. Donc avec un tome 2
qui a déjà deux histoires de finies sur les peut-être 6 ou 7 qu'auront le tome 2. Donc voilà.
Eh bien, ça fait pas mal d'actualité tout ça. On va terminer par les questions rituelles sur tes coups de cœur. On va commencer par un morceau de musique ou un album.
Alors, un morceau de musique, ça serait un album plutôt, ou un groupe plutôt. Tu as le droit de dire un groupe ?
Ah bah tu as le droit de dire ce que tu veux, évidemment.
Et ça serait le BIM, donc le Bénin International Musical. En fait, c'est un groupe de musique... Alors déjà, d'une façon générale, j'aime beaucoup la musique du monde, du Brésil, d'Afrique, du Moyen-Orient, etc. Et là, le BIM, c'est un groupe de Béninois que j'ai rencontré il y a quelques années. On avait fait un concert dessiné ensemble à Marennes. Et là, on travaille actuellement sur un projet de bande dessinée concert. Et voilà, du coup, en ce moment, j'écoute pas mal le BIM, et ça serait le BIM.
On les trouve, on trouve leur musique facilement sur les
plateformes.
Ouais,
et puis s'il y a des gens qui achètent encore des CD, j'imagine que ça doit se trouver en CD. Là, j'ai un vinyle là, au-dessus sur l'étagère, donc hop, un casque est tombé. Donc oui, on doit les trouver un peu partout.
Tu es musicien d'ailleurs ?
Musicien, ça serait un peu exagéré de le dire. J'ai fait de la guitare quand j'étais jeune, mais je gratouille.
T'aurais pu, quand t'as décidé de te mettre à une vocation artistique, t'aurais pu dire plutôt que le dessin, faire de la musique. Finalement, t'étais pas beaucoup plus fort en dessin qu'en guitare.
Je crois que l'idée de faire de la musique devant des gens est un peu paralysant pour moi. Je fais beaucoup de guitare classique, et à chaque fois que je devais faire... mon examen de fin d'année là, pour passer, je sais pas si c'était des niveaux, je me souviens plus, mais c'était un peu terrorisant, je jouais beaucoup moins bien, donc j'aime bien jouer pour moi devant des gens moins.
Un livre ou une bande dessinée?
Un livre. Le dernier qui m'a un peu marqué, c'est Au printemps des monstres de Philippe Janada. C'est un romancier qui a la particularité, depuis quelques livres, de raconter des espèces d'enquêtes criminelles de cas assez importants qui se sont produits dans les dernières décennies et qui a une façon très marrante de raconter parce qu'il fait plein de digressions et il raconte l'enquête dans l'enquête. Et je me suis rendu compte en le lisant que ça pouvait se rapprocher un peu de ce que je faisais dans Les Reflets du Monde où je raconte à la fois le sujet en tant que tel et je raconte la façon dont je fais le reportage. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une façon de raconter qui me plaisait beaucoup, qui était à la fois légère et grave, et voilà, j'ai beaucoup aimé.
Et enfin, une série ou un film?
Est-ce que j'ai le droit de dire un documentaire?
Oui, bien sûr.
Ok. Le dernier documentaire que j'ai vu qui m'a bien impacté s'appelle Premier de Corvée sur Arte. C'est un documentaire dans lequel on suit un jeune migrant qui en fait est embauché à la plonge dans un grand restaurant. Et d'une façon plus générale, ça montre à quel point, toi, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui était nécessaire dans l'immigration. En fait, c'est important pour le fonctionnement des sociétés. Bah, ça montre extrêmement bien à quel point, sans ces gens-là, il y a tout un tas de choses et de services qui pourraient pas fonctionner parce qu'il n'y a que ces gens-là qui acceptent de faire de la plonge ou d'autres métiers pas terribles.
Et d'ailleurs, ça me permet de te demander ce que Hakim est devenu professionnellement aussi. C'est ce qui c'est à la fin de l'Odyssée d'Hakim, mais maintenant quelques années ont passé. Est-ce qu'il a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire, de retrouver son métier originel en Syrie? Que fait Hakim aujourd'hui?
Pendant tout un moment, il y avait un peu ce projet pour lui de refaire une pépinière, un peu l'équivalent de ce qu'il avait en Syrie, mais ça, c'était compliqué pour plein de raisons, et notamment parce que se lancer dans une entreprise, ça demande quand même pas mal de moyens et de voilà. Donc il a un peu laissé ça de côté. Il a commencé par s'occuper des jardins, donc rester un peu dans son domaine des plantes. Donc il allait entretenir des jardins chez des gens. Et puis surtout récemment maintenant, c'est quelques années, il s'est lancé dans de la cuisine syrienne et il vend ça à droite à gauche sur des marchés. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, je lui ai demandé si il se voyait revenir vers la pépinière ou le jardinage, et je crois qu'il est assez bien dans son... Enfin, il m'a dit qu'il était très content de ce qu'il faisait, donc je le vois pas changer tout de suite.
Ce n'est pas toi que j'attendais, l'Odyssée d'Hakim. Suzette, Les deux vies de Baudouin, Les reflets du monde en lutte, c'est aux éditions Delcourt. Ton nouveau livre inoubliable sur ses parcours de vie est publié aux éditions Dupuis. Merci beaucoup Fabien de nous avoir reçus chez toi, dans ton petit atelier. Dans l'atelier BD, c'est tout pour cette fois, et vous savez évidemment ce qu'il vous reste à faire, lisez des BD.